France Culture.
Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans Entendez-vous l'écho, une émission programmée et préparée aujourd'hui par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Alex Dang. Alors contrairement à nos habitudes du mardi, ce n'est pas à un point de la carte de France que nous allons nous intéresser aujourd'hui, mais bien à quatre et donc à une ligne. Cette ligne, c'est celle qui relie Toulouse à Paris en passant par Limoges et Orléans, par voie ferrée, la fameuse POLT, si on remet l'acronyme dans l'ordre, longue de 700 km à cheval sur 15 départements. Elle est aujourd'hui défendue par ses usagers qui s'exprimaient il y a quelques jours en version colère.
C'est pas d'être jaloux, mais quand vous avez des lignes qui sont de Lyon à Paris en 1h30 et vous avez tout le confort, vous dites qui nous sommes, nous, pour ne pas être respectés.
On a des régions qui sont le Limousin, l'Indre, le Lot, la Corrèze, où on est souvent été malheureusement sacrifié sur l'autel des grands projets TGV. Et on se retrouve aujourd'hui avec un réseau ferroviaire et un service public qui n'est plus vraiment qu'un nom.
J'en parle avec les habitants sur ma commune. Dès qu'on parle du Capitole, ils ont des étoiles dans les yeux. Ça allait vite, c'était fiable et ça permettait de faire cette liaison entre la ruralité et Paris. Et aujourd'hui, c'est un désastre. On prend des risques en prenant le train. Il faut avoir une solution d'hébergement.
Il y a des travaux qui sont faits, mais ça reste encore insuffisant par rapport aux besoins et au vieillissement des infrastructures, et du matériel en particulier. Du matériel qui a pour l'essentiel 40 à 50 ans, qui est hors d'usage.
Nous, en fait, on appelle à ce que l'État investisse dans cette ligne, bien plus qu'il ne l'a fait ces 15, 20, 30 dernières années, parce que c'est une solution d'avenir, en fait. Et si on veut avoir une politique d'égalité des territoires, ça passe par ça.
Le 15 avril dernier, un train dit de la colère a été affrété et s'est rendu à Paris. Il n'était pas seul, un autre est également parti de Clermont-Ferrand, autre ligne considérée comme sinistrée, abandonnée, on l'entendait à l'instant, à tel point d'ailleurs que dans le cas de la ligne Clermont-Paris, le ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot, a reconnu lui-même une qualité de service qui n'est pas à la hauteur, je le cite là. Faute d'entretien en 2017, plus des trois quarts des 9137 km de lignes de desserte fine du territoire faisaient l'objet d'un risque de limitation de vitesse, voire de suspension de la circulation. Un mauvais état généralisé qui peut parfois entraîner des conséquences dramatiques. Ce fut le cas notamment en 2013, lors de l'accident de Brétigny-sur-Orge, lorsque l'intercité Paris-Limoges avait déraillé, faisant 7 morts et 400 blessés. Hier, le Premier ministre François Bayrou s'est rendu à Marseille pour lancer une conférence qui devrait durer 2 mois, intitulée « Ambition France Transport » et surtout dresser ce constat. Notre modèle de financement des infrastructures structure de transport est aujourd'hui à bout de souffle. Alors comment en est-on arrivé là en matière d'investissement et de financement des infrastructures? Faut-il conclure que seule la vitesse justifie les moyens? La ligne droite est-elle celle aussi de l'horizon en termes de stratégie ferroviaire, dans le sens où elle serait garante d'efficacité et donc de rentabilité? Un prisme qui interroge la raison d'être des fameuses petites lignes. La bataille économique du rail doit-elle être menée au nom du désenclavement du territoire? Pour le comprendre, focus aujourd'hui sur la POLT, la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, de décennies de stratégie d'investissement et d'organisation du territoire. Patricia Pérennes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, votre thèse financée par RFF, le réseau ferré de France, porte sur la tarification de l'infrastructure ferroviaire. Vous avez fait partie de la direction de la stratégie de la holding SNCF et depuis 2017, vous travaillez auprès des collectivités en tant que conseillère transport pour Région de France, puis directrice transport adjointe en Centre Val-de-Loire. Vous êtes aujourd'hui consultante pour le cabinet Transmission. En quelques mots, Patricia Pérennes, quelle est la mission justement de ce cabinet?
Alors nous, on aide les collectivités, donc dans mon cas les régions, puisque je travaille dans le transport ferroviaire, à discuter avec l'opérateur ferroviaire pour élaborer un contrat. Donc avant, c'était discuter uniquement avec SNCF, SNCF Voyageurs, et puis aujourd'hui, de plus en plus, c'est aider les régions à passer des contrats parce qu'il y a une ouverture à la concurrence, comme vous le savez sans doute. Voilà. Donc c'est vraiment les aider là-dessus, les régions, pour qu'elles puissent avoir le meilleur service avec l'argent public.
Et on va revenir aussi sur ce qui se noue avec ces fameux contrats, quels rapports de force, quels intérêts aussi sont représentés à travers ces fameux contrats. Vous êtes par ailleurs, Patricia Pérennes, c'est un point plus personnel, on va dire vous-même, usagère de cette fameuse ligne Orléans-Paris. Alors qu'est-il reproché exactement à cette ligne? De quoi souffre-t-elle?
Alors moi, je sais que j'habite Bourges, du coup, je prends la ligne Paris-Orléans très très régulièrement, rien que ce matin pour venir vous voir. Donc en fait, il y a deux types de reproches. Déjà, il y a les voies, il y a l'état des voies, on l'entendait dans votre son. Et donc actuellement, la ligne, elle est fermée 5 heures par jour et elle va être fermée 8 heures par jour là, à partir de cet été, ce qui va être très dur pour les usagers pour rénover les voies. Et puis, il y a les trains. Alors, c'est vrai que dans le cas des TER, ce qui est mon cas, moi, j'ai un train régional pour faire Paris-Bourges, on a du matériel neuf depuis maintenant 2-3 ans, qui est vraiment, qui est bien, qui est fiable. Mais pour les lignes intercités, les lignes qui sont par l'État, donc on entendait Paris-Limoges, mais on pourrait parler Paris-Clermont, dont on parlait tout à l'heure. Là, par contre, il y a des trains qui sont très, très vieux, qui ont plus de 40 ans, qui sont les Corail, qui sont vraiment du matériel qui était hyper confortable, qui est super, mais qui arrive à la limite de son âge. Et du coup, qui va être remplacé par des rames qui s'appellent Oxygène, mais qui ont malheureusement du retard, qui devaient arriver cette année et qui n'arriveront pas avant 2027. Donc c'est vrai, on l'a entendu dans votre son, qu'aujourd'hui, les voyageurs tirent la langue parce que l'infra est en mauvais état. On leur promet du sang et des larmes, 9 heures de fermeture, 8 heures de fermeture par jour à partir de cet été. Et en plus, ils ont des locomotives qui tombent en panne, des trains qui tombent en panne. Et donc c'est vrai qu'objectivement, le service est compliqué, en tout cas sur cette ligne.
Christophe Mimer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie et aménagement au sein du laboratoire Matrice pour mobilité, aménagement, transport, risque, société de l'université Cergy-Paris-Université. Attention, dans quelle mesure la ligne POLT peut-elle être qualifiée de petite? Parce que c'est un bon point de vocabulaire qui va revenir assez régulièrement dans cette émission. On le disait, 700 km de ligne tout de même, 58 gares desservies, 2,6 millions de voyageurs chaque année. Est-ce que ce sont ce type d'indicateurs qui sont pris en compte lorsqu'on qualifie une ligne de petite?
Alors effectivement, définir une petite ligne, ça veut dire déjà définir le concept de petite ligne. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que il faut se donner des indicateurs objectifs qui permettent de le faire. Celui qui est souvent retenu, c'est celui de l'Union internationale des chemins de fer qui s'appuie sur le tonnage qui passe sur une ligne, qui va définir ensuite son rythme de maintenance. Et donc, eh bien, des lignes qui sont circulées peu souvent ou alors seulement avec des trains, avec des caisses légères, vont tomber dans le panier de ces petites lignes. Et à l'inverse, des lignes où vont passer de manière très régulière des trains plus lourds, des trains de fret ou des trains à grande vitesse, par exemple, vont basculer de l'autre côté. Et c'est de cette manière-là qu'on pourrait qualifier la ligne POLT de petite ligne.
Sachant que cette dénomination est relativement controversée, Patricia Parenet.
Oui, moi je ne qualifierais pas du tout la ligne POLT de petite ligne pour avoir travaillé pour les régions françaises. Comme ça a été dit, en fait, on utilise plus ou moins une catégorisation internationale qui a été un peu déformée. Et en gros, on divise le réseau structurant plutôt le réseau très circulé, donc le grand réseau, et puis les petites lignes. Et les petites lignes, en fait, POLT, c'est pas du tout une petite ligne. C'est pas ce qu'on appelle une UIC 7 à 9, hein, pour les spécialistes. C'est une UIC 2 à 6, voire même 2 à 4, à mon avis. C'est-à-dire, c'est les plus grandes, mais on a tendance à faire cette confusion, surtout dans le grand public, entre d'un côté le réseau grande vitesse, qui serait le réseau important, et puis toutes les autres lignes qui le seraient pas. Or, Paris-Orléans-Limoges ou Paris-Clermont, de l'autre côté, ce sont pas du tout des petites lignes, ce sont des grandes lignes. C'est qualifié de grandes lignes, et on le verra d'ailleurs, si on en parle, les travaux aujourd'hui sont payés exclusivement par SNCF Réseau. Et du coup, ça montre bien que si SNCF Réseau met ses propres sous et ne va pas réclamer aux régions de l'argent, c'est sans doute parce que cette ligne est grande. Donc moi, je ne la qualifierais pas de petite. Par contre, les lignes classiques, ce n'est pas une ligne grande vitesse. Ça, je pense que c'est de là d'où vient la confusion.
Et c'est de là d'où vient la confusion et c'est de là aussi d'où vient toute une forme de contradiction et d'incompréhension peut-être aussi liée au manque d'investissement qu'on a établi sur cette ligne-là. Vous le disiez, Patricia Pérennes, de lourds travaux sont prévus pour les mois à venir. Alors très précisément, ce sont 70 km de voies qui vont être rénovées entre Boisseau, au nord d'Orléans et les Aubrais, ce qui va interrompre l'intégralité du trafic et notamment entre 9h30 et 17h30 tous les jours entre mi-août et fin janvier 2026. Comme ça, les auditrices, les auditeurs sont prévenus par ailleurs. Or, et c'est ce qu'il faut dire, les usagers de cette ligne-là ont un comportement bien précis. Orléans, ce n'est pas si loin de Paris. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs cette archive de 1976, issue d'un reportage de France 3 Région Orléans, diffusé dans l'émission Visage du Centre.
Pierre de Merlia, 55 ans, habite Orléans. Il a une liaison quotidienne, bicotidienne même, et cela depuis 15 ans. Monsieur de Merlia est donc fidèle. Sa liaison est ferroviaire. Elle va d'Orléans à Orléans via Paris.
Vous avez calculé le nombre de kilomètres que vous avez fait?
Pas spécialement, mais enfin, mettons que ça fasse 1,5 million de kilomètres.
1,5 million de kilomètres. Est-ce que vous êtes fatigué?
Non, non. C'est-à-dire que les conditions de parcours actuelles sont bien meilleur qu'avant, donc on ne fatigue pas, pour ainsi dire. Au départ, en 1961, beaucoup de voyageurs qui allaient à Paris partaient debout. Tandis que maintenant, tout le monde est à peu près assuré de voyager assis.
Monsieur de Saint-Vaulry, entre Vierzon et Paris, sommes-nous dans un train de banlieue ?
Ah non, pas. La banlieue est limitée à environ 50 à 70 km de Paris. Donc c'est ce que nous appelons de la grande ligne.
Mais c'est une convention tout de même. Dans la mesure où Monsieur de Merlia vit à Orléans et travaille à Paris, il est dans une certaine mesure un banlieusard.
C'est absolument exact. Monsieur de Merlia peut être considéré comme un banlieusard. Mais aux yeux de l'État et aux yeux des finances de la SNCF, nous ne pouvons pas considérer ces distances-là comme des distances de banlieue.
D'Orléans à Austerlitz, 124 km. Monsieur de Merlia aura mis 1h10.
Patricia Pérennes, c'est un point sur lequel il faut insister. En 1976, comme aujourd'hui, les usagers de cette ligne, notamment entre Orléans et Paris, le sont au quotidien. C'est un aspect très important. Ce sont eux qui vont être majoritairement impactés par la fermeture de cette ligne en conséquence des travaux qu'on vient d'évoquer. Est-ce que c'est cela qui fait la spécificité économique aussi de cette ligne, ce mouvement de balancier quotidien entre Paris et Orléans?
Alors oui, il y a beaucoup de nafteurs sur cette ligne-là. Donc j'ai trouvé des chiffres. On parle de 120 000 voyageurs et 40 000 nafteurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Limoges derrière et qu'il y a Toulouse. Donc il y a aussi plein de voyageurs qui viennent de plus loin. Même dans votre reportage, on entendait parler de Vierzon. Vierzon, on est déjà à 1h30 de Paris. Voilà, on n'est pas les meilleurs temps de parcours historiques sur les Aubrais Paris-Orléans-Paris. On est à 55 minutes, en gros. Donc c'est vrai qu'on passe en dessous de l'heure. Et il y a beaucoup de vos auditeurs qui doivent habiter en banlieue et qui se font sans doute des Paris-banlieue en une heure. Et c'est vrai que ce qui a été dit sur le fait que les gens soient assis... Bon, aujourd'hui, c'est quand même pas le cas de tout le monde, mais quand même... Bon, quand même, globalement, on arrive à être assis sur ces lignes-là. Ça n'a rien à voir. Et pour avoir fait les deux, au niveau de confort, moi, j'ai pris le RER B pendant des années. On n'arrivait pas à monter dedans et à fermer les portes. Voilà. Le Paris-Orléans, ça n'a rien à voir en termes de confort. Et le Paris-Bourges ou Paris-Vierzon, encore plus. Mais quand même, il faut pas limiter ça au nafteur. Parce que justement, c'est le discours de SNCF Réseau de dire non, mais les trains, ils vont circuler entre 9h30 et 17h30, donc ça passe pour les nafteurs. Attention. Tout le monde ne travaille pas dans des bureaux. Il y a des gens qui ont le malheur de travailler à l'hôpital, de travailler dans des restaurants ou d'avoir des horaires un petit peu décalés. Et du coup, en gros, si vous n'êtes pas cadre ou fonctionnaire, les horaires vous vont pas. Et ça, faut pas l'oublier. Donc le côté, c'est des nafteurs, on a mis en place des solutions pour eux. Il n'y a pas que, il n'y a pas que. Et en plus, il y en a qui, tout le monde n'est pas à horaire 9h-17h ou 9h-18h.
Christophe Hemmer, à cette dimension presque sociologique, on pourrait le dire, s'ajoute une dimension géographique que Patricia Pérennes vient d'évoquer. Il y a cette idée qu'il y en a. C'est le cas pour certains qui font ce mouvement, effectivement, au quotidien d'aller-retour. Plus on se situe loin de Paris, moins c'est une évidence. On se doute bien que la stratégie n'est pas la même. Dans quelle mesure prendre en compte, justement, ces effets de distance et donc ces usages différents au sein d'une même ligne joue, justement, sur la capacité à penser, à configurer la modernisation? Est-ce qu'une même ligne, sachant qu'il n'y a pas les mêmes usagers dessus, peut faire l'objet d'un plan général?
C'est effectivement compliqué sur le cas de la ligne Paris-Limoges, comme le disait Patricia, parce qu'il y a à la fois le début de ligne à Paris jusqu'à Bourges, où effectivement on va être plutôt caractérisé par un trafic d'individus qui font des mobilités domicile-travail, parfois quotidiennes, parfois étalées avec une nuit au milieu. Et puis après, au-delà, il y a tout le reste de la ligne qui descend jusqu'à Limoges, puis jusqu'à Toulouse, où là on va avoir d'autres types de sources de trafic d'usagers. Et alors ça, on a beaucoup plus de mal aussi dans les enquêtes de mobilité à les capter, parce que ça va être ce qu'on met sous l'étiquette voyageurs occasionnels le plus souvent, où on va trouver des étudiants qui vont partir le lundi, qui vont rentrer le vendredi. On va trouver des personnes retraitées. On va trouver également des personnes qui vont voyager pour des motifs familiaux, etc. Et puis, il y a aussi toute la dimension des déplacements professionnels, où dans le cadre de réunions ou dans le cadre de séminaires, sont amenés à venir à Paris ou aller ailleurs, puisque comme on a un réseau très centralisé, souvent Paris est le lieu où les principales correspondances se font, surtout depuis le centre de la France, pour rejoindre ensuite des façades maritimes ou la frontière de l'Est, par exemple.
Et on voit bien là tous les enjeux pour l'État organisateur qui doit prendre en compte tous ces territoires qui sont aussi des territoires institutionnels, mais aussi des usages en tant que tels. Alors, une grande question se pose, comment en est-on arrivé sujet-là, à cet état de vétusté, et donc les retards et donc les travaux qui vont être engagés pour y remédier. Depuis qu'il y a eu le premier TGV en 1981, le réseau classique a été sous-entretenu. Sur la ligne POLT, il faut tout reprendre, changer les rails, les traverses, le ballast, les poteaux caténaires, les fils de contact et mettre des locomotives en état de marche. Ce sont les mots de Jean-Noël Boisselot, vice-président d'Urgence Ligne POLT, un collectif qui a été créé justement pour faire monter le message de ses usagers. Christophe Mimer, est-ce que c'est vrai? C'est la concurrence avec le TGV qui a contribué à un sous-investissement de ces lignes dites de desserte fine?
Alors oui, en partie, mais il n'y a pas que le TGV. Les effets de concurrence, ils ont commencé déjà avant, quand l'automobile s'est diffusée de manière très large après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on dit que le réseau est vétuste, qu'il est sous-entretenu, etc. Mais il y a aujourd'hui encore des systèmes qui datent d'avant la Seconde Guerre mondiale et qui datent des grandes compagnies, avant même la SNCF encore. Donc on a eu ce phénomène-là de diffusion de l'automobile qui a rendu un peu obsolète le modèle économique de certaines lignes du réseau classique à l'époque. Et puis parallèlement, donc on a une concurrence à l'intérieur du mode ferroviaire, c'est vrai, avec la grande vitesse. Et puis on a eu un autre mode aussi qui s'est développé, c'est le mode aérien dans les années 60. On pense à des liaisons intérieures type Air Inter, etc., qui sont venues aussi. Et notamment jusqu'à aujourd'hui, sur Paris-Toulouse, le mode aérien est un concurrent féroce vis-à-vis du ferroviaire.
On se rend compte effectivement que cette concurrence aussi intermodale a beaucoup bouleversé la donne et puis la nécessité et donc l'idée d'une rationalité économique à entretenir ces fameuses lignes. Entre 1990 et 2015, 30 des 78 milliards d'euros investis dans les infrastructures ferroviaires l'ont été dans des lignes à grande vitesse, soit 38% du total. Patricia Perennes, dans quelle mesure le calcul économique s'est effectivement posé en ces termes plutôt que d'entretenir l'existant qui n'était de fait plus tellement rentable en raison de la concurrence qu'on vient d'évoquer? On a préférer investir dans le neuf, c'est-à-dire la grande vitesse.
Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de calcul économique à ce moment-là. Je pense que c'est plus les finances publiques ont toujours été contraintes. Et c'est vrai que quand on arrête d'investir dans un réseau, ça ne se voit pas tout de suite, en fait. Ça ne se voit pas tout de suite. Et du coup, je pense qu'il y a un peu cet effet-là où, on aime couper des rubans, la grande vitesse avec quelque chose d'attractif. On l'entend même dans le reportage que vous avez diffusé au début. Les gens disent, nous, on n'a pas la chance d'avoir la grande vitesse, on aimerait bien avoir la grande vitesse. Donc, c'est vrai que je pense que l'État a plutôt, pour ouvrir, il fallait construire, donc il fallait mettre l'argent. Alors que pour le réseau structurant, le réseau qui existait déjà, si on ne met pas pendant quelques années, ça ne se voit pas. Et c'est vrai qu'on commence à le voir à partir des années 80 et le TGV. Et la date qu'on donne souvent, c'est où on commence à avoir vraiment conscience de ça, donc à Réseau Ferré de France, à l'époque, qui existait avant SNCF Réseau. C'est en 2005, il y a un rapport qui est commandé et donc qui est public cette année-là, qui est l'audit sur l'état du réseau, qui est fait par une université suisse et qui dit, ça ne va pas. Là, si on continue comme ça, le réseau, on ne va pas pouvoir le maintenir. Et de toute façon, étant donné les budgets qui sont à disposition du gestionnaire d'infrastructure, donc Réseau Ferré de France, va falloir faire des renoncements. Et c'était intéressant ce qui a été dit, parce que à partir de la Seconde Guerre mondiale, ou même avant, la réduction du réseau, parce que les gens ont parfois l'impression que le réseau s'est beaucoup réduit ces dernières années, alors que si on regarde historiquement, pas du tout. Les plus grosses fermetures, c'est à partir de 38 et après Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Donc c'est plutôt, en fait, on était arrivé à un réseau qui était déjà quand même pas mal réduit. Donc on est passé de 42 km de ligne à 28 000, 27 000. Mais même sur ce réseau-là, on pouvait encore le fermer, mais ça commence à devenir... on continue à fermer un petit peu, mais beaucoup moins. Par contre, on a moins investi, On a moins investi et ça finit par se voir.
Ce qui est intéressant tout dans cette histoire, Christophe Mimer, c'est qu'il y a un critère, un facteur, on va dire, qui revient sans cesse, c'est celui de la vitesse. C'est cette idée que la vitesse permettrait à la fois une forme d'efficacité, on le comprend assez rationnellement, une forme de désenclavement plus efficace du territoire. Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est l'argument vitesse qui a présidé, on va dire, à nombre de décisions en termes de pensée de cette infrastructure ferroviaire? Est-ce que, et notamment à partir des années 80, on réfléchit en termes de vitesse qui serait une sorte de synonyme aussi de rentabilité?
C'est surtout l'image qu'on se fait de la vitesse. Et c'est pareil, il n'est pas... C'est pas récent, ça date pas forcément de l'arrivée du TGV. La vitesse, elle apparaît dès les lendemains de la Révolution française, quand on a commencé à faire des routes de voies de messagerie, c'est même du coup avant la Révolution, les routes royales, où on crée finalement une hiérarchie dans le réseau, où on a d'un côté des personnes qui se déplacent à pied, et puis de l'autre côté, on a des personnes qui commencent à se déplacer par d'autres modes de transport. Et donc la première révolution de la vitesse, c'est l'arrivée du train à vapeur, où on passe d'une vitesse finalement où on marchait avec ses jambes, puis avec des véhicules qui marchent tout seuls, j'ai envie de dire. Et donc là, on a un saut, vraiment, on multiplie la vitesse beaucoup plus fort que même entre le train classique et le TGV. Donc cette idée de la vitesse, on s'en est toujours fait quelque part un mythe depuis ces années-là, parce qu'à l'époque aussi, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est aussi un moyen de contrôler un territoire que d'y avoir accès facilement. Et puis, ces choses-là se sont trouvées confrontées à d'autres types de préoccupations, telles des préoccupations environnementales ou des préoccupations aussi de cadre de vie qui font qu'on revient un peu sur l'image portée sur la vitesse. Et aujourd'hui, on parle d'éloge de la lenteur. Et dans ce cas-là, effectivement, les trains classiques ou même les trains dans les petites lignes redeviennent finalement des objets centraux parce qu'on peut se déplacer autrement que par la grande vitesse. Et la grande vitesse ne va pas partout encore en plus.
Patricia Pérennes, pour rebondir sur ce fameux rapport de 2005 qui sonne aussi comme une forme de prise de conscience et que vous avez évoqué, il ne s'agit pas uniquement de préférence, effectivement, il y a aussi la notion de contrainte qui apparaît dans ce rapport. Depuis 20 ans, les budgets d'entretien ont perdu 20% de leur valeur en monnaie courante, alors que 3441 km de voies à grande vitesse se sont ajoutés au patrimoine, ça c'est l'effet TGV. Entre 1980 et 2001, une telle évolution ne peut conduire, souligne l'étude, qu'à un vieillissement très important du réseau classique. Comment expliquer ce goulet d'étranglement dont on se rend compte en 2005? D'où vient cette contrainte financière qui s'ajoute à des ambitions infrastructurelles?
Globalement, c'est parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans le discours, la réalité, c'est que le ferroviaire n'a jamais été une priorité. Alors, un tout petit peu plus ces dernières années, mais clairement, même dans les années 2000, c'est pas vraiment une priorité. Et du coup, on essaye de ménager la chèvre et le chou en gardant le TGV. Voilà, c'est pas une priorité. Globalement, il faut se dire la réalité. Il y a quand même eu, il faut le reconnaître, depuis deux ans, depuis un ou deux ans, une stabilisation de l'âge du réseau, alors que ça continue à se dégrader. Parce que la ministre des Transports, qui s'appelait Elisabeth Borne à l'époque, avait décidé de mettre 1 milliard de plus. Et après, quand elle est devenue première ministre, évidemment, ça a aidé dans l'infrastructure. Et donc là, on a un maintien de l'âge du réseau. Donc on a eu des progrès, mais c'est très récent en fait. On pourrait se dire, oulala, sauver la planète, ça fait longtemps qu'on en parle. Avant que ça se réalise dans les faits, il a fallu un certain nombre d'années, quoi.
Et Patricia Pérennes, je voudrais juste insister là-dessus aussi. Vous dites que c'est très récent. Alors, c'est marrant les temporalités. On parle donc du TGV qui arrive au tout début des années 80. Rapport de 2005, il y a déjà un certain nombre d'années qui sont arrivées, 2005 par rapport à 2025 où le sujet, nous l'avons dit, rejaillit dans l'actualité. On a l'impression que la temporalité de prise de conscience puis de mise en place est extrêmement longue. Est-ce que c'est ce qui caractérise de fait tout ce qui concerne les investissements en termes d'infrastructures ferroviaires?
Oui, le transport ferroviaire, c'est vraiment le temps long, et c'est vrai que quand j'entendais le train de la colère, je me disais, ce que risque de leur dire le ministre quand ils vont arriver à Paris sur le Paris-Orléans, ça arrive, franchement, vous allez avoir les nouveaux trains et les travaux d'infrastructure. Par contre, c'est vrai que c'est deux ans. Et du coup, ça paraît très long. Et en fait, c'est très, très court à l'échelle du ferroviaire. Ça a été dit. On a des postes d'aiguillage qui datent des années 30 et qui sont toujours utilisés. Voilà. Donc, en fait, c'est comme ça casse pas d'un coup, en fait, et qu'on peut faire durer. C'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est long. Mais en fait, ça l'est pas tant que ça. On n'aura jamais une ouverture de ligne sous un ou deux ans. C'est toujours au moins 10 ans. Au moins 10 ans.
Et de ce rapport de 2005, je le disais, générer une forme de prise de conscience. Les choses ont changé quand même en 10 ans. Il faut le signaler. En 2006, l'âge des petites lignes était de 46,5 ans. C'était alors un record. 10 ans plus tard, il a été abaissé à 38 ans. C'est entre 38 et 40 ans en moyenne. Il y a eu un plan de financement entre les deux. En décembre 2016, ce plan sur 10 ans est mis sur pied. 46,2 milliards d'euros doivent être consacrés par la SNCF au renouvellement et à la mise en conformité du réseau ferré et des équipements. Guillaume Pépi, qui était alors PDG de la SNCF, déclarait « Nous allons mettre le paquet non pas sur de nouvelles lignes à grande vitesse, mais sur les trains du quotidien. » Est-ce que c'est effectivement ce qui s'est passé, Patricia Pérennes?
Alors, sur le rajeunissement des petites lignes, alors je dirais deux choses pour nuancer le propos. Il y a eu des fermetures. Et quand vous fermez les plus vieilles, ça baisse la moyenne. Donc ça, il faut quand même un moment se le dire. Je crois qu'il y a eu, depuis 2019, 600 km, un peu plus, presque 700 fermetures de lignes. Clairement, c'est les plus vieilles et les moins utilisées. La réalité aussi, c'est qu'à partir de ce moment-là, les régions, à partir de 2015-2016, se sont mis à financer le réseau. Alors qu'avant, je vous ai dit, moi je travaille pour les collectivités, pour les aider à négocier leurs contrats, donc négocier les trains qui roulent. Et en principe, les collectivités n'ont pas à mettre d'argent dans le réseau. En tout cas, ça n'est pas partie des missions attribuées par l'État. Bon, la réalité, c'est qu'il y a des lignes qui ne voient pas c'est que des TER. Donc si elle ferme, évidemment, pour la région, ça va pas. Et du coup, c'est vrai que les régions ont injecté pas mal d'argent. Et donc, je me souviens que ça devait être à la fin des années 2010, on avait effectivement un rajeunissement des UIC 7 à 9, ce qu'on appelle les UIC 7 à 9, c'est-à-dire les petites lignes, parce que les régions avaient sorti de l'argent. Bon, à l'époque, les collectivités étaient un petit peu moins contraintes qu'aujourd'hui, alors que l'État central, pour le réseau structurant, l'avait pas fait. Et en plus, comme il y avait la sortie des lignes les plus vieilles, voilà, mis l'un dans l'autre, on a eu ce rajeunissement, effectivement, des plus petites lignes qui, paradoxalement, arrivaient plus vite que le réseau structurant. Voilà, donc c'est ça que je dirais pour nuancer le propos.
Ce qui est paradoxal, c'est que, ben, justement, 2016, c'est la signature du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau. Et il est dit dans ce contrat de performance que, précisément, ces fameuses UIC, on revient encore à ce mode de classification, ces fameuses petites lignes classées UIC 7-9, SNCF Réseau dit, bah, moi, je n'investis pas sur celle-ci. Et donc, bah, charge à qui veut de le faire. Et donc, c'est là où, finalement, des tours de table s'organisent en sollicitant les régions. Et à l'inverse, bah, SNCF Réseau est tenu d'entretenir le réseau dit structurant, les UIC 2-6. Et d'ailleurs, comme tu le disais, Patricia, c'est ce qu'il n'a pas toujours fait, d'ailleurs.
Et je vais en savoir, parce que tu dis, c'est SNCF Réseau qui dit qu'il n'a pas les moyens. Non, ils se mettent d'accord avec l'État pour refiler le bébé aux régions. Et ce qui est paradoxal à l'époque, c'est les régions viennent de signer des contrats avec l'État qui s'appellent les contrats de plan État-Région, qui sont tous les investissements dans le territoire, y compris y a la culture ou d'autres infrastructures de transport, et pas exclusivement le ferroviaire. Et du coup, on a ce truc où on vient de signer des contrats avec l'État qui n'inclut pas les petites lignes, ou très peu les petites lignes, parce que c'était pas dans le scope, comme on dirait un peu vulgairement. Et puis là, tout d'un coup, SNCF Réseau et l'État qui disent, bon, on s'est mis d'accord, les régions, voilà, vous financez ou ça ferme. Et les régions, on n'avait pas du tout prévu ça dans nos contrats. Et on sait même pas les montants dont on a besoin. Et donc, ils se tournent vers SNCF Réseau, enfin, ex-RFF, ils disent, combien ça nous coûterait? Et là, SNCF Réseau dit, je sais pas, en fait. Il va falloir qu'on fasse une première étape. Et à l'époque, je travaillais pour les régions françaises. On va essayer de vous estimer ça. Parce que la première chose aussi à l'époque, c'est que, au-delà de ne pas investir, SNCF Réseau, notamment parce qu'ils avaient été séparés avec RFF, etc., connaissaient mal son réseau. Donc, on a un truc où l'État et SNCF Réseau se mettent d'accord pour refiler aux régions, sans les mettre vraiment au courant, sans pouvoir estimer les montants, et alors même qu'on vient de signer une série de contrats qui n'inclut pas. Donc, c'est sûr que ça avait été mal vécu à l'époque par les collectivités.
Alors, pour bien comprendre ce jeu d'acteurs qui est très important, effectivement, et puis la façon dont sont, négociés ou en tout cas conclus ces fameux contrats, il faut préciser une chose. J'en reviens à notre POLT à ce moment-là, Christophe Mimer. Il faut préciser que sur cette fameuse POLT, donc, circulent à la fois des trains intercités, des TER et des TER, les trains express régionaux. Or, les deux sont des trains qui reçoivent des subventions. Une question se pose, Christophe Mimer, au nom de quoi ?
Il faut même rajouter maintenant les trains de nuit aussi qui continuent.
On va y venir avec les trains de nuit, tout à fait.
Tout simplement, en fait, on parlait tout à l'heure de l'audit de l'EPFL, mais il y a eu encore d'autres rapports qui se sont succédés après, des commissions parlementaires, le rapport Mobilité 21, la commission sur les trains d'équilibre du territoire, où finalement on a un peu redistribué là aussi les rôles à chacun. Et donc on a d'un côté les trains d'équilibre du territoire dont s'est emparé l'État, qui est devenu autorité organisatrice. Je ne suis pas sûr qu'il le voulait tellement au départ.
Ah oui.
Et puis ensuite, les régions qui continuent, elles, depuis 2002, à exploiter les trains express régionaux. Donc finalement, on a des niveaux de subvention à des échelons différents avec des trafics qui sont parfois concurrents. Plus on rajoute à ça, effectivement, le train de nuit. Donc finalement, même du point de vue de l'usager, c'est aussi une offre qui n'est pas toujours lisible et qui est compliquée à comprendre, avec des tarifs aussi qui sont différentes et des conditions de remboursement ou d'annulation qui sont parfois également complexes à comprendre.
Vous l'avez dit, il y a eu un grand nombre de rapports publiés sur la question. J'en cite un sur lequel nous allons revenir, paru en février 2020, qui établissait que la maintenance de ce réseau de desserte fine est massivement portée par la sphère État, donc le budget de l'État et de SNCF Réseau, à hauteur de près de 85%. Directement via la redevance d'accès versée par l'État à SNCF Réseau ou indirectement par une péréquation interne à SNCF Réseau. La Patricia Pérennes, il faut nous aider à comprendre très concrètement qui finance quoi.
Alors en fait, il y a deux sources de revenus pour SNCF Réseau. Il y a les péages, en fait. Tout le monde n'a pas conscience de ça, mais quand un train roule sur un rail, c'est un peu comme une voiture sur l'autoroute, il verse un péage. Voilà. Donc il y a le péage et il y a également la subvention. Voilà, c'est les deux choses dont peut bénéficier SNCF Réseau. Bon, les péages, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à comprendre comment ils sont fixés, mais pour la faire courte, le principe, c'est que SNCF Réseau ne peut pas gagner de l'argent sur ces péages, et c'est même plus compliqué, enfin... C'est même déterminé, les péages sont plutôt déterminés de façon assez basse. Et du coup, en fait, même s'ils gagnent des péages, c'est un tout petit peu moins vrai pour les TGV, mais en tout cas, sur les lignes classiques, il reste un déficit. Et la question, c'est qui porte le déficit? Bon. Et du coup, aujourd'hui, c'est SNCF Réseau via la péréquation. Et c'est vrai que l'État paye un péage spécial, qu'on appelle la redevance d'accès, qui permet également de combler une partie de ce trou. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pour ça que si SNCF Réseau n'aime pas forcément ces petites lignes, parce qu'il y a peu de trains, donc peu de péages, et de toute façon les péages étant pas rentables, ben, le plus rentable c'est de fermer la ligne, quoi. Donc c'est sûr que si on se met d'un point de vue pure entreprise, ces lignes-là ne sont pas rentables, et c'est d'un point de vue socio-éco qu'elles le sont ou pas. Et c'est là qu'il y a des débats, il y a eu des rapports qu'on pourrait aussi citer, qui se disaient bon, la ligne n'est pas rentable. On va arrêter de dire il y a des lignes rentables, pas rentables. Une petite ligne, ce n'est jamais rentable. Par contre, peut-être que pour les territoires, ça vaut le coup. Et donc là, il y a des débats d'experts à comment on va valoriser le fait d'être accroché finalement à la grande ville, le fait d'avoir bénéficié d'un réseau ferroviaire. Et selon les hypothèses que vous prenez, vous pouvez avoir des résultats très différents. Voilà. Et effectivement, il y a des lignes que Réseau Ferré de France, SNCF Réseau par la suite, considèrent comme pas rentables d'un point de vue socio-économique, en prenant en compte même la pollution, les vies sauvées, et donc il faut mieux fermer.
On voit donc qu'il y a différentes logiques qui arrivent sur la table dès lors qu'on parle de cette fameuse rentabilité espérée ou non pour ces lignes-là. De ce point de vue-là, Christophe Mümmer, je voudrais revenir sur un terme que vous avez employé, celui de train d'équilibre du territoire. C'est une dénomination qui dit beaucoup, c'est affiché dans le titre, cette l'ambition d'équilibre du territoire. Est-ce que ces trains-là, qui sont des intercités, si j'ai bien compris, et qui donc sont sous la houlette de l'État, est-ce que ces trains-là ont vocation, assument en fait quelque part cette idée de désenclavement des territoires, d'être un service public en tant que tel?
Oui, tout à fait, parce que ce sont des trains conventionnés, donc qui répondent à une mission de service public dans le cadre d'un contrat entre l'État et SNCF Voyageurs. Et puis, il faut voir que c'est une offre de grande distance qui est à côté du modèle TGV, qui, lui, n'est pas du tout conventionné pour le coup, et qui est régi par des règles du marché, de l'offre et de la demande, avec même le fameux principe du lead management, où finalement l'évolution des tarifs suit la loi de l'offre et de la demande. Donc, les relations à grande distance que sont les intercités répondent à la fois à un manque d'offres sur certaines lignes, c'est le cas notamment de la ligne POLT, et puis répondent également à des objectifs économiques et de services publics vis-à-vis des usagers, pour défendre finalement quelque chose qui est écrit dans la loi depuis les années 80, qui est le droit à la mobilité, c'est-à-dire le droit de pouvoir se déplacer dans la mesure de ses moyens.
Donc si je vous comprends bien, c'est une espèce d'échelon entre le TER et le TGV en termes de vitesse et de desserte que seraient ces intercités-là. Patricia Pérennes, vous souhaitez réagir?
Alors oui, bon, en fait, ce qu'il faut toujours dire sur les trains d'équilibre du territoire, dont le nom commercial plus connu est intercité, c'est qu'en fait, si vous regardez une carte, il faut vraiment regarder une carte là pour le coup, on voit qu'ils sont définis en creux. Ils sont définis en creux par rapport au TGV et au TER. Vraiment, c'est marrant que moi je regarde souvent cette carte quand je suis dans le Paris-Vierzon, je me dis, waouh, la principale gare de Paris, c'est Paris-Austerlitz. La gare que personne connaît, qui n'est même pas sur le Monopoly. Voilà, donc c'est vraiment la gare très très secondaire. Et en fait, on voit bien que c'est le centre de la France. Il y a quelques lignes transversales, donc le Nantes-Lyon et puis le Marseille-Toulouse au sud. Et puis, par exemple, la Normandie, la Bretagne, la région Grand Est ne bénéficient pas de ces trains d'équilibre du territoire. La Normandie parce qu'elle est trop proche et qu'elle a des TER. La Bretagne parce qu'elle a eu la chance d'avoir le TGV. Et la région Grand Est, pour la même raison, elle a la chance d'avoir le TGV. Donc, train d'équilibre du territoire, le vocable pourrait se dire qu'il y a quelqu'un qui s'est mis derrière un bureau et qui a dit de quel train on a besoin pour désenclaver et rendre uniforme notre territoire. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la SNCF a construit des TGV, donc la SNCF tout court à l'époque, hein, c'était intégré, dans les endroits où il y avait suffisamment d'habitants, où il y avait des logiques, par exemple Paris-Lyon, le Morvan, il n'y a pas grand monde, et du coup ça permet de desservir et d'avoir suffisamment d'habitants. Et donc ces TGV ont réussi à trouver, ça a été dit, un modèle économique. Par contre, il y a des endroits qui ne sont pas assez densément peuplés, la diagonale du vide, que j'habite. Hein, donc, et du coup, ben là, il y a eu un trou. Donc on a laissé les trains qui avaient toujours existé, vitesse classique. Et au bout d'un moment, et ça a été dit tout à l'heure, est-ce que l'État a vraiment voulu les reprendre? Bon, j'étais pas là à l'époque, j'étais trop jeune, mais je pense qu'il s'est plutôt passé que SNCF a dit, bon, soit vous mettez de l'argent en face, soit on ferme, en fait, hein, parce qu'on va perdre de l'argent. Donc à partir de 2011, de mémoire, on a ce contrat entre l'État et SNCF, un peu sur le modèle des TER. Les TER, c'est 2002 qu'on commence à avoir ce système de subvention, où ça subventionne. Mais c'est vrai que c'est plutôt... Il faut regarder la carte, il faut voir les creux, en fait. Il faut voir ce qui manque. Ce qui manque, c'est les trains régionaux, ce qui manque, c'est les TGV. Et du coup, on a ces trains-là que l'État récupère, mais il n'y a pas vraiment de stratégie. Donc, ils en repassent une partie aux régions. Pareil, c'est quelque chose... Paris-Orléans, certaines personnes vont dire « Mais non, c'est de l'intercité, Paris-Orléans ou Paris-Bourges. » Non, ça l'était. Ça a changé. C'est là, passé, c'est passé aux régions, de mémoire, ça devait être 2015 ou 2016, dans ces eaux-là, parce qu'il y a eu un rapport, un autre rapport, le rapport Duron, qui avait... Et pareil pour les trains normands. Certains vont vous dire « Mais non, c'est des intercités. » C'était des intercités.
Et ce sont
maintenant, c'est devenu des TER. Voilà. Donc, il y a une partie, donc les trains que je viens de vous citer vers le centre, certains vers Hauts-de-France, beaucoup, beaucoup vers la Normandie, qui sont des trains régionaux. Il y a des intercités qui ont disparu, Paris-Strasbourg, par exemple, parce qu'il y a le TGV, et puis ben, il y a ce qui reste, quoi.
Ce qui est intéressant aussi avec ces intercités, ces trains d'équilibre du territoire, Christophe Humeur, alors là je vais vous poser une question déloyale et citer un extrait d'un de vos articles. Vous dites, dans un des articles que vous consacrez au sujet, que les trains d'équilibre du territoire ont un modèle commercial plus proche de celui du TGV que celui du TER. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ?
Bah, il faut comprendre que bah, finalement le modèle de desserte est pas celui du TER où finalement on a une échelle qui est l'échelle régionale avec du cabotage, et là finalement le modèle du train d'équilibre du territoire, bah, comme l'a dit Patricia, il est défini en creux, mais ça reste souvent des lignes radiales quand même. C'est toujours des lignes qui, tu l'as dit, Paris-Austerlitz, finalement c'est le nœud principal de ce réseau intercité. Alors à part les deux transversales qui sont au nord et au sud du Massif central, ben finalement, on reste sur des logiques radiales parce qu'on estime que c'est là qu'on va capter aussi un maximum de trafic. Donc, c'est là où on va avoir peut-être le déficit le moins important.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en creux ne veut pas nécessairement dire par défaut non plus. Il ne faudrait pas confondre les deux acceptions du terme, Christophe Mimer. Et là, je reprends un exemple sur lequel vous avez beaucoup travaillé, celui des trains de nuit. On a cité certaines lignes, mais il faut en citer cinq trains de nuit nationales à destination d'Albi, d'Aurillac, de Briançon, de Cerbère, de La Tour, de Carole, Nice, Rodez, Tarbes, Toulouse. Or, ce développement des trains de nuit raconte aussi une vision, une certaine vision, une ambition aussi de l'État qui est à la charge de ces trains d'équilibre du territoire. Et comme c'est assez récent, il y a aussi une forme d'ambition qui est incarnée là à travers l'explosion de ces trains de nuit.
Alors c'est une ambition à géométrie un peu variable, puisque là, pour le coup, l'État a changé de position de manière assez rapide, puisque le déclin de ces trains de nuit, il n'est pas vieux. Hein, il date, le démantèlement du réseau des trains de nuit, il existe depuis les années 80, mais la suppression du train de nuit a été faite au début du 21e siècle. Et moins d'une décennie plus tard, on s'est dit, finalement, on va réveiller à nouveau le train de nuit. Et donc là, ce sont d'autres types de raisonnements qui ont été finalement à l'ordre du jour pour le réveil de ces trains de nuit. J'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais effectivement, les questions de rapport à la vitesse se sont posées autrement. Les questions d'ordre environnemental sont à nouveau venues sur le devant de la scène, notamment en concurrence des autres modes. Et de ce point de vue-là, le train est redevenu un objet intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier l'image populaire qu'a le train et qu'il conserve depuis qu'il a été créé. On a tous en tête ces campagnes de pub, des compagnies historiques pour aller vers le bord de mer ou dans les stations thermales. Bah, aujourd'hui encore, il y a un attachement au train de la part des usagers qu'on retrouve toujours on le retrouve dans des séries, dans la littérature jusqu'à aujourd'hui encore.
Et qui est effectivement très présent. Patricia Pérennes, vous étiez réagir.
Oui, c'était sur le modèle économique. Effectivement, pour donner quelques chiffres, les TER, en gros, un tiers du coût total du TER est couvert par le voyageur et deux tiers par la subvention. Les intercités, c'est à peu près exactement l'inverse. Ça va être un tiers donc par l'État et par la subvention, et deux tiers par les voyageurs. Et comme on a dit, il y a différentes lignes. Donc il y a des lignes qui sont à la limite de la rentabilité. Parce que en France, on peut dire qu'il y a les trains rentables, qu'on appellerait les services librement organisés, et les trains pas rentables, qu'on appellerait les trains de service public. Tous les TER et tous les intercités sont considérés comme des trains de service public, et les TGV sont les services librement organisés. Mais en fait, c'est là que pour ces intercités, c'est pas tout à fait clair. Pour ceux qui connaissent, si vous allez en gare d'Austerlitz, vous verrez des Ouigo vitesse classique. C'est des trains roses, et c'est d'anciens corails qui sont maintenant faits par SNCF de façon rentable, sur des lignes qui, en principe, l'étaient pas. Paris-Chartres, ça allait pas, ça a été donné à la région. Mais non, en fait, ils arrivent quand même à trouver une petite porte de sortie. Il y a eu pendant très longtemps des Paris-Toulouse aussi qui étaient non subventionnés parce que, pour certaines lignes, la SNCF arrivait à trouver un modèle économique. Voilà. Donc, on est quand même sur des trains, en particulier pour les plus grandes lignes, donc celles qui partent de Paris, hein, pas les transversales, on pourrait quasiment trouver un modèle économique. Et donc, c'est en ça que je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on est proche du TGV, le modèle économique, il va se trouver en faisant du yield management, c'est-à-dire en faisant varier les prix, en faisant de la réservation obligatoire, on peut pas monter dedans facilement, ou juste comme ça, comme on montrait dans un métro. Donc voilà, il y a quand même ça qui est important de dire. Dans le modèle économique, on pourrait, sur certaines lignes, quasiment être rentable sur l'intercité, et visiblement SNCF y arrive quand elle fait des corails, des Ouigo vitesse classique.
Il y a cette question du modèle économique, et puis il y a la question de la stratégie, de la vision, encore une fois, de l'État, et là, Christophe Mümmer, il faut insister sur ce point. Vous le dites d'ailleurs, c'est la conclusion de votre long article consacré au train de nuit. Vous dites qu'en tant qu'autorité organisatrice des trains d'équilibre du territoire depuis 2010, l'État n'a pas pu ou su s'imposer face à la SNCF, fortement opposé au développement de ce maillon intermédiaire entre TER sous l'autorité des régions et le TGV sous sa propre responsabilité économique. C'est effectivement une sorte de bras de fer en fait, qui s'est incarné notamment avec la question des trains de nuit.
Oui, parce que aussi, il ne faut pas oublier que SNCF est dans un contexte où il y a l'ouverture à la concurrence et des nouveaux entrants. Et donc, SNCF cherche quand même à se positionner là où potentiellement elle pourrait être rentable. Et par l'idée parfois de conventionner avec l'État, c'est pour elle aussi un moyen de rester dans le jeu pendant un certain nombre d'années. Et peut-être que sur certaines lignes, elle aurait préféré que la convention s'étale même encore un peu plus longuement.
Donc on le comprend, tout est un enjeu à la fois d'équilibre économique, mais aussi des enjeux de configuration, de structuration du territoire. Et puis au nom de quoi ? Service public ou au contraire, service considéré comme rentable. Alors entendez-vous, l'écho continue de parcourir les 700 km qui s'y séparent par voie de chemin de fer Toulouse de Paris, en passant par Limoges et Orléans. Alors si la concurrence avec le TGV a largement contribué au délaissement de ces lignes, faisant de la vitesse un indicateur de rentabilité en soi, un autre facteur doit être pris en compte pour comprendre les arguments en faveur de l'entretien de ces fameuses petites lignes, celui de l'ambition historique de la mise en place d'un réseau à travers toute la France. Tout l'enjeu est de ne pas louper le train, y compris celui des investissements. C'est ce que recommandait Wayonnakar en 1950. Don't miss that train, Lord. Try to be ready when you call your name. Comme tous les mardis, entendez-vous l'écho, se rend sur les lieux qui façonnent l'économie, aujourd'hui un lieu en mouvement, puisque c'est à bord des intercités, des TER qui relient Toulouse à Orléans, que nous embarquons, puis à Paris évidemment, afin de comprendre le lien qui unit ces territoires au réseau ferré qui se construit progressivement tout au long des 19e et 20e siècles, jusqu'à être remis en cause d'une certaine manière au 21e siècle pour des questions entre autres de rentabilité. C'est tout l'enjeu de ces petites lignes dont nous discutons aujourd'hui avec le géographe Christophe Mümmer et l'économiste Patricia Pérennes. Alors Christophe Mümmer, pour comprendre les évolutions récentes de la façon dont les soi-disant petites lignes, on est déjà revenu sur cette détermination, sont considérées comme un investissement nécessaire ou non, il faut remonter à l'origine même de la façon dont est conçu le lien entre territoire et réseau ferré. Dès le 19e siècle, il y a cette idée que les chemins de fer changeront les conditions de l'existence humaine, pour reprendre les mots de Michel Chevalier, ingénieur des corps des mines et héritier de la pensée de Saint-Simon. Il le disait ça en 1832. Il y a à cette époque une forme d'institutionnalisation des bienfaits, des infrastructures, des transports. Qu'est-ce qu'ils sont supposés être, ces fameux bienfaits ?
Alors effectivement, il y a tout un mythe, c'est Jean-Marc Hoffner qui définit ça en 1993, il démontre qu'un mythe des effets structurants des infrastructures de transport sur les territoires s'est construit à la fois par les discours politiques et puis se sont été aussi entretenus, dit-il, je le cite, par une certaine paresse méthodologique de la part des scientifiques pour démontrer ou non ces fameux bienfaits du réseau. Alors les bienfaits du réseau, ils sont pensés, on l'a déjà évoqué un tout petit peu tout à l'heure, sous l'angle d'abord politique et militaire, puisque c'est un moyen de transporter des troupes, c'est un moyen aussi pour le pouvoir central de se rendre de manière rapide dans les territoires. Il ne faut pas oublier que l'un des facteurs de découpage des départements après la Révolution, ça a été de rendre accessible chaque préfecture en un aller-retour à cheval dans la journée. Eh bien, on peut comprendre assez facilement que finalement, les grandes lignes qui, telles qu'elles ont été, on va dire, pensées en 1842 dans la loi de l'étoile de Legrand, répond au même principe, mais cette fois-ci à l'échelle nationale, à l'heure où la République s'installe durablement en France.
Peut-être quelques mots sur cette étoile de Legrand que vous venez d'évoquer, Christophe Mivard, en quoi cela consiste d'un point de vue géographique?
Alors, la loi de 1842, elle dit en gros que les lignes de chemin de fer doivent s'établir entre la capitale Paris, vers toutes les façades maritimes, donc vers la Normandie, le Nord, Bordeaux, la Méditerranée, etc. Doit relier également le bassin de la Méditerranée à l'Atlantique par la ligne Bordeaux-Marseille et doit rejoindre le Rhin et le Rhône. Et donc, à partir de là, on a l'armature qui existe encore, qui est celle du réseau structurant. Et puis, à partir desquelles va se mailler un réseau secondaire qui va être constitué de transversales. Et puis après, à partir des années 1870-1880, les lignes d'intérêt local, c'est le fameux plan Freycinet, qui va faire que finalement, là, on va être jusqu'au début du XXe siècle à l'apogée du ferroviaire, où le réseau va être plus du double que de celui d'aujourd'hui.
Patricia Pérennes.
Oui, moi, je partage tout à fait ce mythe des effets structurants. Alors, pour parler d'un langage un peu plus courant, je pense que certains de vos auditeurs sont persuadés que si on ouvre un TGV, ça va changer complètement le dynamisme économique, l'emploi, etc. dans un territoire. Or, il y avait notamment une étude très fouillée qui avait été faite par un labo, je pense, qui est très proche, où tu dois connaître Christophe, qui était sur Reims, la desserte de Reims en TGV. Et en fait, Reims, c'est pas un territoire... C'est l'Est de la France qui était particulièrement dynamique et ils ont une bonne desserte TGV. Et ça n'a pas vraiment changé les choses. Et donc, il y a cette idée-là, on va parler de Bordeaux, etc. Oui, Bordeaux, ça a vraiment fait exploser la ville. En fait, ce que montrent les études un peu sérieuses sur la question, c'est de se dire... Il y a aussi des études qui ont été faites en Espagne, où on a un réseau grande vitesse qui a explosé très, très vite. C'est de se dire, s'il y a déjà un dynamisme qui est déjà là à l'œuvre, ça ne va faire qu'amplifier ce dynamisme. Mais voilà, mais il ne faut pas non plus penser que c'est la baguette magique. Et moi, je parle souvent de mon territoire. Il y a une ville qui a une très très bonne desserte ferroviaire, c'est Vierzon. Et Vierzon n'est pas la ville la plus dynamique de Centre-Val de Loire et du Berry. Voilà. La desserte ferroviaire ne fait pas tout. S'il n'y a pas un terreau économique, un dynamisme qui est propre, ça ne sera pas la baguette magique. Et ça, c'est vraiment une idée, je suis d'accord, qu'il faut démonter parce qu'il y a ce mythe où tout le monde veut sa gare TGV, sa ligne TGV. Paris-Orléans-Clermont-Lyon, on n'en a pas du tout parlé. C'est un projet de ligne à grande vitesse qui a longtemps été dans les débats, qui aujourd'hui est un peu sorti, mais jamais complètement. Ou si on a sous-investi sur cette ligne aussi, Paris-Orléans, c'est parce qu'on se disait, on va faire Paris-Orléans-Clermont-Lyon, donc une nouvelle ligne grande vitesse. Et du coup, il n'y a pas besoin de s'occuper de cette ligne classique. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai.
Christophe Mimer, je voudrais juste revenir quelques instants sur ce fameux plan Freycinet, vous le disiez, de 1879. Je voudrais citer les paroles de François Philizot, alors ancien préfet, auteur d'une étude parue en 2020. On a déjà commencé à l'évoquer, on l'évoquera encore un petit peu sur le devenir des petites lignes. Lui, il estimait que ce plan a permis de développer un réseau extrêmement fin, parallèle à celui des routes nationales qui étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui. Il s'agissait de faire accéder à la modernité l'ensemble du territoire national et de déployer une stratégie d'investissement pour créer de la croissance. On parlerait aujourd'hui d'une politique keynésienne d'investissement. Christophe Mimer, c'est effectivement l'esprit de ce plan. Est-ce qu'il y a cette idée que la croissance ferroviaire permettra la croissance tout court de l'économie du pays?
Oui, on est en plein là dans le fameux mythe des effets structurants où on aurait un effet automatique où on aurait de chaque côté du signe égal, augmentation du nombre de kilomètres de voies ferrées égale augmentation du PIB. C'est ni plus ni moins ça. Et puis derrière ça aussi, dans le plan Freycinet, il y avait eu un certain nombre de décisions très locales qui étaient le fait d'élus très locaux où chacune de ces villes voulait avoir sa gare, voulait avoir son accès à la grande ville, etc. Et ce sont des choses qu'on remarque encore aujourd'hui. la desserte à grande vitesse, c'est quelque chose qui est mentionné dans les discours politiques. La relation à la capitale, TGV ou pas, c'est aussi quelque chose qui est mentionné encore dans les discours politiques. Et on le voit même dans la presse locale de manière très régulière, où chaque année, on a des couvertures du Point qui regardent l'effet TGV à Bordeaux. Et encore la même chose sur les effets attendus du Grand Paris Express. Peu importe à l'échelle à laquelle on raisonne, ce mythe des effets structurants, on continue d'y croire. Et parce que c'est aussi une manière pour le politique de légitimer des investissements à plusieurs milliards aussi. De justifier quelque part cette dépense d'argent public en disant vous allez voir, les bienfaits qu'on attend derrière, ce sont des bienfaits en termes de croissance économique, en termes d'emploi. Et donc, ce mythe-là est largement encore entretenu aujourd'hui.
Et un mythe qui apparaissait aussi encore et toujours en 1969, où le Capitole, train emblématique qui reliait Toulouse à Paris, était mis en scène.
Entre Orléans et Vierzon, le Capitole circule à 200 km à l'heure. Ces résultats spectaculaires ne doivent cependant pas masquer les efforts entrepris sur l'ensemble de la ligne. Les 400 km du parcours Paris-Limoges sont couverts à une moyenne de 140 km à l'heure. Et malgré la traversée du Massif central, Toulouse n'est plus qu'à 6 heures de Paris. Ces horaires remarquables sont réalisés sur une ligne centenaire sans que des investissements considérables aient été engagés.
Le train arrive à Toulouse-Matabiau dans quelques minutes. Nous espérons vous revoir prochainement. Merci.
Alors qu'actuellement, les trains français parcourent journellement 140 000 km à plus de 100 km à l'heure de moyenne, le Capitole marque un nouveau départ vers la réalisation de vitesses élevées qui, plus que jamais, répondent à un impératif économique et à une nécessité commerciale.
Voilà, un impératif économique et une nécessité commerciale. Le Capitole qui reliait donc Paris à Toulouse en 5h56 pour son meilleur temps, c'est-à-dire entre l'été 1971 et l'hiver 1975, a disparu en 1991. On retrouve là une forme de coïncidence chronologique aussi avec l'arrivée du TGV. Alors, difficile de dire, Patricia Pérennes, si cela a eu des conséquences économiques pour le territoire à ce moment-là. C'est tout de même resté le Capitole comme un train extrêmement emblématique, mais ça me permet de poser une question d'ordre plus théorique. Et je reprends là un point que vous avez abordé notamment dans votre thèse sur ce que finalement incarne un réseau et l'idée, et c'est ce qu'on comprend à travers toute cette émission, qu'il y a un peu deux conceptions du réseau, à la fois comme outil territorial, alors pensé comme un outil de désenclavement, de dynamisme économique aussi, mais il y a à la fois cette vision de l'ingénieur et cette vision de l'économiste. Vous le dites, le réseau peut être défini comme une infrastructure qui organise les relations entre agents en mettant en relation des fournisseurs et des consommateurs et dont les caractères intrinsèques ne permettent pas le fonctionnement selon les règles de la concurrence pure et parfaite. Alors là, on a un problème, Patricia Pérennes. Pourquoi ce réseau est par définition presque défaillant?
Pourquoi il fonctionne pas d'un point de vue concurrentiel? Parce que bon, alors c'est vraiment pour ceux qui ont fait un peu de cours d'économie, c'est ce qu'on appelle un monopole naturel. C'est-à-dire qu'on peut pas en fait construire, ça n'aurait pas de sens de construire une ligne et une autre ligne à côté. Économiquement, voilà, ça serait à disperser du capital, qu'il soit privé ou public d'ailleurs, hein, parce que les premières lignes, ça a été dit, a été construit avec de l'argent privé. Voilà, donc ça fait plus sens d'avoir une seule route, les rails à un seul endroit, et du coup, voilà, c'est là que ça devient quasiment nécessairement un service public qui doit être entretenu par l'État et on doit accepter des déficits. Voilà, il y a quelques lignes qui pourraient être rentables. On en a parlé, c'est les lignes grande vitesse parce qu'on arrive à faire payer les voyageurs suffisamment cher pour couvrir l'ensemble des coûts, y compris l'infrastructure. Mais on va se le dire, s'il n'y a pas du tout de subvention dans ce secteur-là, le réseau ressemblerait à ce qu'il est en Amérique du Sud aujourd'hui. Il n'y en a plus, à part certains trains de fret. Voilà, c'est clairement, c'est pour ça que si on considère que c'est je pense défaillance, c'est pas le terme que j'utiliserais, c'est vraiment de se dire si on veut un réseau ferroviaire en France, que ça soit pour mieux desservir, que ce soit pour des raisons de pollution, pour des raisons de vie humaine aussi, il y a quand même beaucoup moins de morts dans ce mode de transport qu'est le train qu'il y en a en voiture. Voilà, il faut mettre de l'argent public. Bon, sinon on renonce, on devient l'Amérique du Sud. Hein, c'est
Christophe Mimmer, vous écriviez dans votre thèse à vous que faire réseau suppose non seulement une infrastructure support, mais aussi une confrontation entre la visée de l'ingénieur et la visée de l'économiste. Effectivement, ce sont deux visions qui structurent en fait toute l'histoire de la construction de ce réseau depuis le milieu du 19e siècle. Il y a à la fois ces deux tensions dès lors qu'on parle de cette notion même de réseau.
Oui, parce que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ce que vient de développer Patricia à propos du réseau ferroviaire, on pourrait avoir quasiment le même raisonnement sur le réseau routier. C'est-à-dire que ce sont des réseaux d'infrastructures voitures, qui sont nécessaires à une activité économique, qui sont nécessaires à un déplacement de marchandises, à un déplacement de personnes, donc qui remplissent une fonction économique, on va dire, supérieure. Et de ce point de vue-là, l'engagement de l'argent, de la puissance publique semble se justifier. Et parce que également, ce sont des infrastructures qui sont caractérisées par des coûts fixes qui sont très importants et qui, par nature, ne peuvent pas être forcément supportées par les règles de la concurrence pure et parfaite. Et c'est vrai que finalement, on se retrouve dans une situation où, de facto, on va créer aussi une hiérarchie de réseau directement, parce que forcément, on va quand même aller favoriser les investissements là où potentiellement on va avoir de la rentabilité, là où aussi les besoins sont les plus forts. Hein. Et donc, on va avoir une sorte de modèle, on va dire, de l'économiste qui va être issu de ce qu'on appelle des modèles gravitaires. Hein. C'est-à-dire que potentiellement, l'interaction entre deux villes, elle va être d'autant plus forte que la masse de ces deux villes est importante et que la distance entre ces deux villes est faible. Et donc, l'une des manières de réduire la distance entre ces deux villes, c'est de rajouter de la vitesse et donc de faire des investissements. Et donc, pourquoi pas d'ouvrir des lignes de TGV, etc. etc.
Et du reste, le fameux rapport Philizot qu'on évoquait à l'instant de février 2020 préconisait de hiérarchiser les près de plus de 9000 km de lignes de desserte fine et d'en diversifier le financement selon leur fréquentation, leur importance et leur potentiel. C'est effectivement une solution qui devait être mise sur la table, Patricia Pérennes.
Oui, parce qu'en fait, on l'a dit, en fait, le rapport Philizot, il se concentre sur les vraiment petites lignes. Donc, il n'y a pas du tout à Paris-Orléans, c'est ce qu'on appelle les UIC 7 à 9. Et comme on l'a dit, SNCF Réseau et l'État, c'était un peu, dit hop, on donne ça aux régions. Et à un moment, les régions ont dit, mais c'est pas prévu, on n'a jamais reçu les financements pour ça. En même temps, elles avaient déjà commencé à financer, Donc à un moment donné, l'État et les régions se sont mis autour de la table et ont dit, on va répartir les lignes entre celles qui sont en fait pas si petites que ça, qui sont quand même structurantes. Donc on va remonter dans le réseau structurant, donc elles vont revenir dans l'escarcelle de SNCF Réseau, qui en sera en charge, comme Paris-Orléans, dans le structurant. Il y a celles qui vont être moitié-moitié. On va les mettre dans les CPER. La région va financer à les 60% et l'État 40 ou 30. Voilà. Et enfin, il y a les petites-petites, et notamment les restants du réseau Fraissinet, et notamment quelques lignes métriques qui restent encore, parce que le réseau Fraissinet a beaucoup été démonté, faut aussi se dire la vérité. Bon, et dans ce cas-là, celles-ci, elles sont 100% région, et les régions les financent à 100%. Et c'est là qu'aujourd'hui, depuis très peu de temps, depuis peut-être 6 mois, on a des régions qui, avec les contraintes budgétaires récentes, disent « on va pas y arriver ». On va pas y arriver sur ces lignes-là. Et du coup, on parle de fermeture de lignes, de Guéret-Felletin, de la ligne des Hirondelles qui va se trouver en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a réparti, on a espéré que ça passait. Et puis, le contexte économique change et on se retrouve encore à dire, mince, c'est les plus petites des plus petites, celles qu'on a données à 100% en région. Est-ce qu'elles vont passer l'hiver? On verra.
Christophe Mimot, vous souhaitiez...
Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La hiérarchie du réseau, elle est, on va dire... automatique à partir du moment où un réseau naît, le réseau de voies postales dont je parlais tout à l'heure, il était aussi hiérarchisé puisque tout dépendait de l'interdistance entre chaque relais et donc on changeait de chevaux de manière plus ou moins rapide, ce qui fait que les chevaux étaient capables de supporter une vitesse élevée pendant longtemps. Pareil, dès le 19e siècle, le réseau ferroviaire a été très hiérarchisé. Christophe Studenil, un historien qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La Révolution de la Vitesse, il montre très bien que en dehors des quelques lignes structurelles où effectivement on apportait de la vitesse à partir du 19e, très vite on était dans des petits tortillards qui avançaient très très lentement. Donc la hiérarchie, quelque part, on la constate aujourd'hui aussi du point de vue routier, où on a même aussi des constats parfois alarmants, où on a un réseau routier qui n'est pas très bien entretenu non plus, où on a aussi misé sur un réseau autoroutier à partir des années 60, et où on a aujourd'hui tout un petit chevelu de réseaux, de voies communales qui ne sont pas entretenues.
Et du reste, ce n'est sans doute pas un hasard si hier, à Marseille, François Bayrou a lancé ce plan Ambition France Transport qui ne parle pas uniquement de réseau ferroviaire, c'est aussi le réseau routier, autoroutier qui est concerné, qui fait l'objet d'une mise sur la table, on va dire, de toutes les problématiques pour l'instant, qui trouveront peut-être des solutions. Patricia Pérennes, on a beaucoup parlé des plans, des comptes rendus, des commissions, etc., qui avaient eu lieu sur ce sujet-là, notamment des petites lignes. Le 24 février 2023, Elisabeth Borne a leur première ministre, annoncé un plan d'investissement de 100 milliards d'euros. Alors justement, hier, je crois qu'il a été établi que ces 100 millions d'euros n'avaient pas été budgétisés. Selon vous, à quoi devraient-ils servir ces 100 millions d'euros? Où se situe la priorité?
100 milliards, attention.
100 milliards, pardon.
Non, c'est vrai qu'Elisabeth Borne avait annoncé les 100 milliards d'euros, mais voilà, ils n'ont jamais vraiment, on ne savait pas d'où venait l'argent. Il n'y a jamais eu vraiment dans le budget de l'État ces 100 milliards. Un peu quand même, 1 milliard par an qui venait du TGV, parce que le TGV aujourd'hui est très rentable. Mais voilà, donc là, on a un peu finalement avoué qu'il n'y avait pas les 100 milliards. Et la priorité, pour moi, ça serait vraiment l'infrastructure. Pas pour forcément construire de nouvelles lignes grande vitesse. Pas pour, peut-être pas, même si je le souhaiterais à plus long terme, pour rouvrir des petites lignes, mais pour maintenir le réseau existant et le moderniser. Parce qu'on en a parlé un petit peu en début d'émission, il y a des postes d'aiguillage qui datent des années 30. Et ça, il faut absolument en sortir pour pouvoir augmenter le nombre de trains sur le réseau actuel et renforcer aussi sa fiabilité, voilà. Donc la priorité, ça serait d'investir dans l'infra au bénéfice de tous les trains, marchandises et passagers.
Sachant qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ces postes d'aiguillage coûtent cher, hein. c'est un gros poste de dépense.
Il faut des personnes en 3-8 pour faire tourner les trains.
Christophe Miller, en quelques mots, puisque la cette émission est en train de
s'éteindre. Vous l'avez dit, il y a à la fois les personnes, mais il y a aussi les marchandises, et il y a tout un défi qui est celui de la décarbonation des chaînes de transport, notamment de marchandises. Et là aussi, on nous promet depuis plusieurs années des relances du fret ferroviaire, etc. Et donc, on attend de voir encore les résultats sur le terrain, on va dire.
Et nous avons consacré un grand nombre d'émissions au fret ferroviaire, où vous aviez d'ailleurs participé, Patricia Pérennes. Un grand merci à tous les deux, Guillaume Nimmer et Patricia Pérennes, d'avoir participé à cette émission.